marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Magnifique.
La description de la nature, un art perdu.
Le lilas, lu par l'auteur. Il y a chimie du rose au bleu, efflorescence et proconfusion violâtre dans les éprouvettes en papier filtre du lilas. Les bouquets formés d'une quantité de tendres clous de girofles mauves ou bleus du lilas. Filtre, dis-je, si bien qu'une goutte de la grappe en fusion parfois se détache, comme du point d'exclamation le point.
Et oui, comment trouver encore les mots justes pour décrire la nature, alors qu'un prêt nous met déjà à la peine quand il s'agit de le présenter, et que nous sommes dans l'embarras dès qu'il s'agit de nommer les arbres et les oiseaux. Cependant, il y a encore les poètes pour franchir la distance entre l'art qui tente d'évoquer et la science dont le vocabulaire ne s'est pas tout embrassé. Colette, dans sa maison à coucher dehors de Saint-Tropez, a cherché à saisir des yeux et à caresser des mains sa treille muscate et plus tard, Francis Ponge qu'on vient d'entendre, pareillement son lilas. Devant la treille muscate et le lilas, la plume pourrait pourtant désespérer. La peinture aussi d'ailleurs. Quel mot, quelle couleur pour singulariser chaque branche ployant sous l'effet des fleurs dans un buisson qu'agite doucement la grâce tourbillonnaire du vent. Tout est si lié dans tous les sens. Francis Ponge en vient à utiliser des mots qui ne sont qu'à lui. Pro-confusion, exflorescence. C'est en fait un effort qu'il fait pour retrouver un très ancien savoir sur le monde où tout comptait infiniment, et pas seulement l'homme. La catastrophe écologique présente est bien documentée, mais nous n'avons pas seulement perdu un monde, nous avons perdu aussi bien des manières de le décrire dans le détail.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Romain Bertrand, bonjour.
Bonjour.
Le détail du monde, un livre aux éditions du Seuil. On vous connaissait comme un grand spécialiste du monde espagnol transposé par la conquête, conquête entre guillemets, aux Philippines, en Indonésie, et vous prôniez une histoire à parts égales où les naturels devaient être entendus au même titre que les conquistadors, qui d'ailleurs n'étaient pas si nombreux qu'on l'imagine.
Oui.
Alors, histoire à parts égales, c'est quand même un de vos moteurs.
Oui, et d'une certaine manière, ce livre qui pourrait paraître, qui m'apparaissait d'ailleurs à moi-même comme n'étant qu'un excursus, est une sorte d'extension du domaine, sinon du programme de recherche, du moins de l'inquiétude qui l'habite, et qui est une inquiétude par rapport à la façon dont nous avons produit finalement des récits assez dépeuplés d'un certain nombre de ces situations historiques. Et si effectivement il fallait essayer de produire une narration chorale des situations de conquête ou de découverte et redonner la parole à un certain nombre d'acteurs indigènes généralement oubliés dans les grands récits épiques, eh bien peut-être aujourd'hui l'urgence que vous évoquiez nous commande-t-elle de laisser plus de place dans nos écrits, dans nos descriptions, à la nature, c'est-à-dire au petit peuple des êtres naturels.
Récit dépeuplé des naturels, récit dépeuplé de la nature.
Oui.
Et ressaisir tout cela. Je vais vous proposer un exercice pour commencer, puis on entrera dans le détail du monde. L'exercice consiste à rapprocher le point de vue de deux contemporains. Le premier est à peine trentenaire, il s'appelle Max Bird. Il anime une chaîne YouTube et puis au départ des spectacles, beaucoup d'abonnés, beaucoup de spectateurs. Sa passion, c'est l'ornithologie, comme l'indique son surnom, Max Bird. Il a passé son adolescence en Guyane. Il y est retourné pour ses abonnés qui lui avaient demandé de fixer par l'image les oiseaux qu'eux préféraient.
des toucans Ariel et des toucans à bec rouge. Voilà, c'est les deux plus grands toucans qu'on peut observer dans le coin. Ils étaient des dizaines, sautillant d'arbre en arbre, chantant à tue-bec dans le soleil du matin. C'était orgasmique.
Alors là, on a le chaud du toucan à bec rouge. Magnifique. Voilà, la folie continue, il y a du Ariel, du bec rouge, partout. Ça chante, j'ai jamais vu ça.
Max Bird, rythme soutenu, vous savez que devant les écrans, on a maintenant l'attention d'un poisson rouge. Maintenant, Franck Olivard nous emmène dans un atelier paisible du côté de Montparnasse, où on fait des cours de peinture naturaliste. Et oui, il y a encore des professionnels de la peinture naturaliste, tels Julien Norwood, passionné lui aussi par l'ornithologie.
Donc c'est un engoulevent d'Europe, donc Caprimulgus europaeus, donc son nom scientifique. C'est un oiseau donc avec un plumage cryptique, donc camouflage. C'est un oiseau nocturne qui passe son temps à voler de nuit, donc comme une chouette, sauf qu'il vole sans se poser pour attraper les insectes. Donc là on voit un micro-bec ici, qui est tout petit. Quand le bec s'ouvre, la bouche est énorme, exactement comme une baleine. Et il va manger du coup le plancton aérien. Donc du coup, il va voler la bouche ouverte, il va avaler tout ce qui passe à son passage. Et donc moi, je suis déjà allé l'entendre donc de nuit. Il a un chant assez particulier, très métallique, il fait comme ça, très très longtemps. Il se confond avec le sol, donc c'est des couleurs qui sont dans des bruns avec des touches de gris cendrées par-ci par-là, des ocres vraiment qui vont jusqu'à des couleurs sable voire chamois, assez chaud à certains endroits. Et le plumage est d'autant plus invisible quand l'oiseau est posé au sol que il y a des vermiculations, il y a des stries, il y a des marbrures, il y a des taches claires et noires qui imitent les différentes couleurs, les différentes textures du sol et les taches d'ombre et de lumière qu'on peut voir au sol. Donc on peut le marcher dessus si jamais il s'envole pas, hein, et il est vraiment invisible.
La différence entre Max Bird et Julien Norwood n'est pas seulement une différence de tempo, de vocabulaire aussi.
De vocabulaire et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que la première description est une description de la situation et dans l'instant de la rencontre avec le monde sonore aussi, en l'espèce de la jungle, alors que la seconde est la description d'un être naturel abstrait de son environnement, donc soustrait aux effets de paysage qui influent sur la façon dont il nous apparaît. Ce qui veut dire que la question n'est pas seulement des mots perdus et de ces lexiques qui se sont affaissés. L'un, évidemment, peintre naturaliste par profession, maîtrisant beaucoup mieux toute la gamme des spécifications des oiseaux. L'autre étant visiblement plus un amateur. Un amateur d'ailleurs qui éprouve le même type d'enthousiasme que les premiers grands naturalistes et que Alexandre de Humboldt lui-même, pénétrant pour la première fois dans la forêt brésilienne. Mais par-delà cette question des lexiques, je crois que la question est aussi celle du rythme ou de la scansion. Et de la façon dont poète, naturaliste, philosophe, historien même, eh bien, ont tenté de saisir le monde dans son détail, c'est-à-dire à la fois dans la totalité, dans son entièreté d'une certaine manière, et lorsqu'il fait paysage, lorsque les êtres sont enlacés les uns aux autres, et puis créature par créature. Donc voilà, je crois que c'est pas seulement la question de l'affaissement ou de l'affadissement du langage qui est en jeu là, c'est la question de savoir ce qu'on voit, non pas ce qu'on regarde d'ailleurs, mais ce qu'on voit dans l'instant d'un émerveillement et d'une situation, ou au contraire dans l'instant où on contemple l'être, qui en l'espèce d'ailleurs souvent chez les naturalistes est un être mort, posé sur la table.
18e, 19e, 20e siècle, ce seront les siècles de notre parcours, on peut le commencer peut-être en citant Rousseau, parce que Julien Norwood parlait de l'engoulevent qui était invisible au sol tant il se confondait avec les feuilles et la terre. Rousseau dit, quand il herborise dans les années 1760, au fond, cette mousse de bois sur laquelle je prends la précaution de ne pas marcher, ça pourrait faire un livre.
Oui. Oui, il a... Alors c'est l'un des moments où Rousseau, qui évidemment se se penser perpétuellement victime de critiques, de cabales, etc., chercher à trouver refuge dans des lieux un peu éloignés. Et là, c'est sur l'île d'un lac en Suisse, où il décide, dit-il, d'inventorier brin par brin la flore de cette île refuge. Et brin par brin, c'est-à-dire non seulement, évidemment, lister, faire l'inventaire générique des espèces présentes, mais décrire chaque brin d'herbe, et il dit « je voudrais faire un livre sur chaque gramen des prés, sur chaque mousse des bois ». Voilà, c'est une belle expression d'un rêve impossible et pourtant assez, assez magnifique.
Un de ses contemporains, enfin un peu plus jeune que lui, spécialiste de l'élégie, Paul et Virginie, mais prosaïque aussi, a planté un fraisier, racontez-vous, sur le balcon de son appartement. Oh là là ! C'est aussi compliqué que la bouche des bois, c'est vraiment un défi de raconter le fraisier. Il est allé plus loin. Et peu avant, Paul et Virginie a publié ses récits de voyage de l'île de France, l'île Maurice.
Comment oublier les descriptions senties que vous avez faites de telle ou telle plante, de tel arbre et de ses fruits. Votre cocotier, sorte de palmier, dites-vous, qui se plaît dans le sable.
C'est un des arbres les plus utiles du commerce des Indes. Cependant, il ne sert guère qu'à donner de mauvaises huiles et de mauvais câbles. On prétend qu'à Pondichéry, chaque cocotier rapporte une pistole par an. Des voyageurs font de grands éloges de son fruit. Le cocotier se plaît tellement près de l'eau salée qu'on met du sel dans le trou où l'on plante son fruit pour faciliter le développement du germe.
Pour en revenir au cocotier, l'image s'en retrouve jusque dans le monument en bronze de notre jardin des plantes, élevé à la gloire de Bernardin de Saint-Pierre. Son feuillage clément abrite les amours naissantes de deux enfants. Madame de la Tour et Marguerite avaient planté deux cocos ensemble.
Il naquit de ces deux fruits deux cocotiers. L'un était l'arbre de Paul et l'autre l'arbre de Virginie. Ils crurent tous deux dans la même proportion que leur jeune maître, d'une hauteur un peu inégale, mais qui surpassait au bout de 12 ans celle de leur cabane.
Un dialogue imaginé pour France Culture entre Stanislas Fumet qui questionne Bernardin de Saint-Pierre, sur le palmier, il y a des pages sur le palmier dans votre livre, et sur le cocotier. Je retiendrai, moi, l'idée que le cocotier pousse en rapport l'un avec Paul et l'autre avec Virginie. Donc il y en a un qui sera un peu plus petit, celui de Virginie, un autre qui sera un peu plus grand. Il y a une analogie. Une analogie. C'est le mot ?
Oui, c'est le mot. Il y a une analogie qui est d'ailleurs l'expression d'une forme d'anthropocentrisme. C'est-à-dire la volonté de toujours tout ramener ou rapporter de la description d'un lieu ou d'un être naturel à des propriétés qui sont usuellement associées aux humains. Et Bernardin de Saint-Pierre, de ce point de vue, est un personnage intéressant parce qu'il est alors évidemment frotté de révolution et de lointain, mais aussi l'un des tenants de ce que l'on appelait puissant courant de pensée, la théologie naturelle. Et la théologie naturelle, eh bien, a produit de magnifiques descriptions naturalistes parce que pour elle, l'un des premiers modes d'adoration ou de dévotion à l'égard de la divinité, eh bien, c'était la contemplation et la description de sa création. Et donc, cheminer dans la création, inventorier les êtres, et inventorier les êtres d'une manière très particulière, et c'est en cela que la théologie naturelle, c'est d'une certaine manière le dernier feu de ce très ancien savoir analogique qui flamboie à la Renaissance et puis qui s'éteint dans les siècles qui suivent, eh bien cheminer parmi les êtres, non pas au nom de ces classifications austères, sévères, qui s'inventent très exactement à
l'époque,
même époque,
de Bernardin, oui.
Avec Buffon, Linné, etc., mais cheminer par concordance d'éclat, par concordance de teintes, de textures, et alors évidemment on a par exemple chez certains théologiens naturels britanniques comme Stainson, l'idée qu'on range les êtres dans des catégories parce qu'ils se ressemblent en surface, et qu'on peut dans une même catégorie eh bien ranger par exemple le toucan, dont on parlait en début d'émission, et le rhinocéros, parce que tout simplement Dieu les a faits avec une corne.
On avance dans le temps, vous citiez Humboldt, première moitié du 19e, Humboldt a lu Bernardin de Saint-Pierre, vous racontez ça. Humboldt a été élu par Wallace. Alors Wallace, ça c'est le personnage pivot de votre détail du monde, un arpenteur modeste d'origine, passionné par la collecte des insectes. Les riches faisaient du fox hunting, de la chasse aux renards en Angleterre, et les classes moyennes, entre guillemets, épinglaient des insectes dans des boîtes. Et puis, il va en venir à explorer la jungle de l'Amazonie. Avec d'ailleurs une bonne idée, parce que c'est un homme modeste d'origine, comment est-ce qu'il va financer son voyage? Par les spécimens épinglés.
Ouais. Oui, tout à fait. Et
alors d'abord, bientôt en 1850.
Oui, tout à fait. Et Wallace, c'est d'ailleurs un personnage qu'on redécouvre beaucoup, que l'Angleterre redécouvre et célèbre beaucoup depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, avec un peu d'exagération, parfois en faisant d'une certaine manière opposé de Darwin, parce que Wallace est le co-découvreur, le co-inventeur de la théorie de l'évolution, et il est vrai que l'histoire des sciences l'a un peu oublié. Mais elle en fait souvent
Darwin
une sorte
est un homme formé par les écoles, et Wallace un autodidacte.
Exactement.
À bien des égards, oui.
Et on en fait presque un héros prolétarien de la science. Alors ça n'est pas complètement faux, vous l'avez rappelé, c'est le fils d'un petit rentier gallois ruiné qui doit gagner sa vie pour subvenir aux besoins, en particulier de sa mère. Et comme beaucoup de naturaliste collecteur de cette époque, eh bien, il finance ses voyages et donc la production d'un savoir scientifique sur la nature par une activité qui est essentiellement une activité de prélèvement et de prédation et de déprédation, c'est-à-dire qu'il collecte non pas par dizaines mais par milliers, et lors de son voyage en Indonésie qui durera 8 ans, par dizaines de milliers des insectes puisqu'il les vend.
Nous voilà maintenant chez vous, enfin je veux dire en Indonésie, votre terre de chasse, oui. Si je peux employer le mot, oui. De préférence. Le voici dans la jungle en 1854, extrait de son journal.
Les espèces très voisines sont-elles jamais séparées par de larges distances? Quels éléments de relief déterminent là où s'arrête une espèce et où commence un genre? L'aire de répartition d'une espèce se borne-t-elle précisément aux mêmes lignes isothermes ou n'est-elle en rien affectée par celle-ci? Levé 5h30, toilette, café. Petite pause, le temps de préparer, classer mes insectes de la veille et les disposer dans un endroit sûr afin qu'ils sèchent. Charles répare mon filet à insectes, remplit nos coussins à épingles et s'apprête pour la journée. Petit déjeuner à 8h, départ pour la jungle à 9. On y arrive couvert de sueur après une marche d'un quart de mile sur une côte escarpée. Puis jusqu'à 2 ou 3 heures, on erre dans une ombre délicieuse. Le long des sentiers dégagés par les bûcherons chinois. On rentre généralement avec 50 ou 60 scarabées, certains très rares ou beaux, et parfois quelques papillons.
Extrait de La Marche des Sciences, l'émission sur France Culture d'Aurélie Luneau. Oui, c'était un virtuose du coup de filet en même temps que du coup d'épingle.
Tout à fait, oui, oui. Et c'est un bel extrait. D'abord, Wallace faisait publier des lettres décrivant son activité quotidienne de collecte dans de grandes revues scientifiques. Alors là, c'est un extrait qui concerne la période de son arrivée dans l'archipel indonésien, d'abord à Singapour et puis ensuite à Bornéo.
1854.
Voilà, parce que Wallace fait à Singapour une rencontre assez étonnante. Il tombe sur l'un des personnages les plus hauts en couleur de l'Empire britannique, celui qu'on appelle le Raja Blanc, James Brooke, un homme qui s'est fait roi dans la jungle de Bornéo, qui est bien en mal de légitimité à l'époque, puisque on a du côté de la couronne britannique un certain nombre de griefs contre lui. Et Brooke, pressentant tout l'intérêt d'avoir à ses côtés un naturaliste qui commence à avoir à s'être fait un certain nom, eh bien invite Wallace donc à séjourner au Sarawak, donc dans la partie occidentale de l'île de Bornéo. Et ce qui est fascinant, c'est ça d'ailleurs dans le récit de ces années, de ces 8 années de pérégrination aux quatre coins de l'archipel indonésien, de Singapour aux Moluques, de Bornéo jusqu'aux côtes de la Papouasie. Eh bien, c'est cette alternance entre la description clinique et parfois assez glaçante de la mise à mort, de la préparation des dépouilles, aussi bien d'insectes que d'oiseaux, et d'orang-outans, parce que Wallace, eh bien, maniera la carabine pour abattre près d'une quinzaine d'orang-outans.
Oui, mais attendez, il va biberonner les enfants.
Oui, et c'est voilà, exactement. L'alternance entre ces moments-là, une description clinique d'une activité de chasse, et puis une description en plein de beaucoup de tendresse pour les êtres naturels. Alors oui, effectivement, il biberonne un bébé orang-outan, mais parce qu'il vient d'abattre la mère qui le portait dans sa nacelle, dans son nid au haut d'un arbre, et donc alterne des pages de tendresse et d'infini souci de la nature.
C'est qu'il n'y a pas de hiatus entre vie contemplée et vie prise.
Oui, exactement, exactement. Et autant on a voilà ces pages qui peuvent être des, considérées comme des pages de chasse au sens propre. Et puis il y a ces pages de description très fines et très belles des êtres de la nature, des papillons, des lianes. Et d'une certaine façon, avec ce que Goethe appelait, ça c'est une belle expression, un empirisme plein de tendresse.
Vous, par contre, vous maniez l'adjectif et le jugement sévèrement. Hein. Orgie de crimes, sillons ensanglantés, j'en passe et des meilleurs, comme si vous n'aviez pas chassé quand vous étiez petit avec votre papa.
Oui, j'en fais l'aveu, d'ailleurs, j'en fais l'aveu en ouverture de ce livre et... C'est aussi peut-être la confession d'un repenti, ce livre. Alors, pas chassé jusqu'à très tard dans ma vie. J'ai chassé parce qu'on chassait dans ma famille. Mais évidemment, à une époque où on nous annonce que les printemps à venir seront silencieux, eh bien, le souvenir de ces oiseaux que j'ai abattus, évidemment, me pèse tout particulièrement. Mais donc, moi, je suis comme mes personnages. C'est-à-dire que moi, j'aime beaucoup mes personnages, y compris dans ce qu'ils avaient de plus sombre, dans cette part-là. Et je ne me retranche pas de ce jugement qu'on peut porter aujourd'hui sur la façon dont, collectivement, nous avons agi et mal agi avec la nature.
Vous parliez du parallèle entre Darwin et Wallace. Ils ont un peu fait un gentleman agreement, c'est-à-dire que Darwin a mis quelquefois en note, en bas de page, le nom de Wallace et que Wallace s'en est contenté. Tout de même, entre Laurent Houtan et le singe, vous animez avec Patrick Boucheron un séminaire au Collège de France. Monsieur l'administrateur du Collège de France, Alain Prochian, vient de sortir un livre décisif sur le singe, où il dit que la différence de 1,23% dans la masse du cerveau entre le orang-outan et le singe, ça fait l'exceptionnalité de l'homme. C'en est même monstrueux d'exceptionnalité. Considérez pas ce point de vue.
Si, mais l'affirmation de l'exceptionnalité... du caractère d'une espèce, d'autres espèces seraient tout aussi exceptionnelles au regard d'autres propriétés physiques, cognitives ou perceptives. Et à l'affirmation de l'exceptionnalité d'une espèce, et en l'espèce de la nôtre, ne dispense pas pour autant de considérer, je vais au-delà du propos du livre que vous citiez, que l'homme n'est après tout aussi qu'un élément. Dans ce grand tout, ce qui est formidable chez ces naturalistes-là, chez Wallace, chez Humboldt, chez Bernardin de Saint-Pierre, c'est que leur description du monde n'affirme jamais d'emblée la précédence ou l'exceptionnalité de l'être humain par rapport au reste des êtres naturels. Et tout est décrit d'une certaine façon à même hauteur de ton ou à même hauteur de casse. La liane autant que le papillon et l'indigène aussi bien que le lagon.
Jusqu'ici, on a chassé, épinglé, écrit. Maintenant, on va peindre. Dernier personnage que nous allons esquisser, Louis Tiner. Alors lui, sa maman était communarde, son oncle était communard. Enfant du drapeau rouge, il a rejoint une expédition tricolore, la conquête de Madagascar. Alors je ne dis pas ce que vous racontez de la conquête de Madagascar. Les humains ont cette fâcheuse tendresse à s'aimer plus que toute chose, mais enfin... Il se tue, sillon ensanglanté, orgie de crimes derrière l'armée française. Bon, du sang on fait des lampions et Tiner présente des dioramas à l'exposition universelle de 1900 qui sont repérés par le prince souverain Albert Ier de Monaco.
Le prince Albert Ier, en fait, il a monté des expéditions où en fait il se faisait accompagner de scientifiques et aussi d'un artiste. Et il étudiait les animaux, il les chassait pour pouvoir les observer, et il faisait documenter ces chasses et cette expédition par des photographies et des peintures. Louis Tiner a une très très grande admiration pour le prince, et c'est le début d'une relation quasiment d'amitié, puisqu'on le voit à travers les lettres. Le prince Albert fait don de gibier à Louis Tiner. A priori, ces deux personnages ne sont pas faits pour se rencontrer, puisque le père de Louis Tiner a été communard, a été exilé pour cela. Mais il y a en fait une espèce de ralliement de Tiner à la personnalité du prince.
Non seulement on partait à la découverte, et on a découvert des mondes qu'on ne connaissait pas du tout, mais on les a fixés sur toile, on les a fixés sur photographie, sur cinématographe.
Oui, bon, c'est Monaco Info, Romain Bertrand. Peut-être que le prince et le prêtre ne s'entendaient pas si bien ou dans un certain nombre d'années. C'est comme un vieux couple, quoi. Bon,
tout à fait.
Chacun poursuivait son, son objectif. Alors ce prince Albert, là aussi, encore un chasseur épouvantable, un viandard, il est comme vous, il aimait bien les abysses marins. Et là, il voyait la paix sociale.
Oui, et c'est peut-être ça qui, paradoxalement, au-delà de la question de l'amitié et donc de la relation sociale, unissait le prince au fils de communard fusillé, c'est cette passion pour les bleus. Pour les bleus. Alors pour les bleus profonds, hein, les bleus
banquise
ultramarins et presque éteints des abysses pour le prince, hein, qui est évidemment un pionnier de la recherche océanographique, et qui a une lecture de ces abysses et des créatures qui les habitent ou les tapissent, en fait profondément politique. Voilà, il écrit, d'ailleurs dans La carrière d'un navigateur, qui est le récit à la première personne de ses expéditions de chasse et océanographique, eh bien d'une certaine façon qu'au fond des mers, il n'y a pas tout ce désordre politique qu'on trouve aujourd'hui, qui agite les nations, la démocratie, les cabarets, etc. Il faut voir qu'Albert Ier de Monaco nourrissait un discours tout de même extrêmement virulent à l'encontre de la populace. Alors là, dans les abysses, évidemment, eh bien ceux qui règnent, sans parlement ni constitution, tout simplement, eh bien ce sont les plus forts. Voilà. Et puis de l'autre côté, Tiner, qui est effectivement le peintre naturaliste que s'est choisi le prince pour ses expéditions, et qui lui est obsédé par les bleus de surface, hein, puisque les tableaux les plus étonnants sont ceux évidemment de la banquise.
Ils sont à Issoire, ces tableaux, pour une part.
Oui, pour une part, car il était effectivement auvergnat.
Et puis dans la principauté, à tout seigneur, tout honneur. Continuez, parce que je vous ai interrompu quand vous décriviez les tableaux.
Et donc, paradoxalement, en fait, ce qui est intéressant dans cet improbable couple social et politique qui va, pendant près d'une dizaine d'années, arpenter les océans, eh bien, c'est ce même souci, on pourrait dire, de la couleur des choses, hein, qui est un souci particulièrement vif chez Tiner, qui littéralement cherche son bleu, à une époque où la question du bleu et la question du rôle du bleu parmi les couleurs primaires, dans la théorie des complémentaires de la peinture, est une question difficile parce que le bleu n'est jamais une couleur comme les autres. Voilà. Ce que disait aussi Francis Ponge. Ponge disait du bleu, il accueille à son heure l'ombre et la lumière. C'est une sorte de noir et de blanc tout à la fois.
Ponge y parlait dans l'exergue de l'émission, dans son poème sur le lilas, de la pro-confusion. La question, c'est de singulariser. Le palmier ou le cocotier chez Bernardin de Saint-Pierre, et puis l'arbre dans la forêt, et puis l'oiseau dans la nuée.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, ce très ancien savoir qui continue à flamboyer ou qui jette ses derniers feux avec Bernardin de Saint-Pierre, Alexandre de Humboldt, Wallace encore peut-être, et puis qui s'éteint, qui s'étiole, eh bien ce très ancien savoir précisément était porté par une et même plusieurs philosophies des singularités. L'idée qu'il fallait saisir chaque être dans l'instant de son surgissement, dans l'instant de son apparition, et c'est bien ça qui fait la quête poétique aussi de Francis Ponge et d'autres, hein, aussi bien de Fernando Pessoa à la même époque, de D.H. Lawrence. Il ne s'agit pas de décrire la fleur jaune, quelle que soit son espèce, mais cette fleur jaune, ce jour-là, dans cet éclat-là.
Ce savoir, on le retrouve, vous avez cité des poètes, chez Paul Valéry. Une page de Paul Valéry est reproduite dans le Détail du Monde, votre livre, Romain Bertrand, aux éditions du Seuil. Valéry qui disait qu'il fallait chercher la singularité en exterminant la répétition. Enfin, c'est facile à dire parce que devant un coquillage...
Si je visite toute une galerie de coquilles, j'observe une merveilleuse variété. Le cône s'allonge ou s'aplatit, se resserre ou s'évase, les spirales s'accusent ou se fondent, la surface se hérisse de saillies ou de pointes, parfois fort longues, qui rayonnent. Elle se renfle quelquefois, se gonfle de bulbes successifs que séparent des étranglements ou des gorges concaves sur lesquelles les tracés de courbes se rapprochent. Gravés dans la matière dure, sillons, rides ou stries se poursuivent et se soulignent, cependant qu'alignés sur les génératrices, les saillies, les épines, les bossettes, s'étagent, se correspondent de tour en tour, mais le langage ordinaire se prête mal à décrire les formes, et je désespère d'exprimer la grâce tourbillonnaire de celles-ci.
Et sachez que le séminaire du Collège de France que co-anime Patrick Boucheron et Romain Bertrand, ici présents, convoque des poètes, des historiens au même titre que des philosophes et des psychanalystes, des poètes, j'ai dit, parce qu'ils sont indispensables, pour saisir l'insaisissable. C'était un peu notre thème aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Émile Canegulesco, Frédéric Martin et Franck Olivard, Patrick Henry à la réalisation, Audrey Ripouille à la réalisation, bah oui, et Patrick Henry à la technique. Hein. Chaque chose a sa place dans les classifications, hein, Mathieu Bidard.